Bienvenue au Polysécur épisode spécial revue d'année. Je suis avec Nicolas Loïc Fortin.
Salut.
Et je suis votre hôte Marie-Ève Fortin pour cet épisode tout spécial pour revenir sur la fin d'année du Polysécur. Donc, j'ai préparé plusieurs questions à poser à Nicolas Loïc là, pour changer un peu la dynamique de ces épisodes-là. Donc, on va débuter avec une question sur les débuts du Polysécur. Donc, est-ce que tu veux nous raconter comment est-ce que le Polysécur est né?
C'est un cas très drôle et j'aime bien la raconter, cette histoire-là. C'est en novembre 2020. J'ai un de mes très bons amis qui est à la maison. Et un des rares moments où on pouvait se réunir sur des adresses impaires avec les phases de la Lune et ainsi de suite. Donc, il pouvait être chez nous, selon les règles qui étaient en vigueur à l'époque. Et on jasait, on prenait une bière ensemble et il m'a un peu mis devant le fait que je devrais me démarrer un podcast sur lequel, au début, je faisais un peu de pushback là, parce que tu dis « Ah non, mais tu sais, machin ». Puis il m'a dit « Non, mais tu débrouilles bien, blabla. » Puis il a fini par me convaincre de démarrer ça.
Qu'est-ce qui a fait que tu as trouvé que c'était une bonne idée?
J'ai pas trouvé que c'était une bonne idée. J'ai juste trouvé qu'il était très convaincant. c'est moi qui m'étais embarqué dans un plan dans lequel je suis maître en plus. On m'a poussé dans mon propre plan. Puis c'est clairement Vincent a de très bons arguments pour m'avoir poussé dans mon propre plan. Fait qu'il m'a juste comme poussé dans le plan. Puis j'ai juste comme pris le plan. Puis je suis allé avec le plan. Et ensuite, je t'ai embarqué aussi dans ce plan-là, là, subséquemment par rapport à tout ça. Là, je dis ouais, là, mais ça t'entraînerait-tu toi aussi, d'embarquer dans mon plan qu'il n'y a pas de sens, puis là, parce que mon ami m'a poussé dedans, puis là je sais plus quoi faire, puis là, je suis perdu.
Oui, donc tu t'es laissé influencer dans l'idée du Polysécur.
Complètement.
Puis je me souviens là, qu'on était dans le confinement, puis on faisait des séances d'idéation, de brainstorm par Zoom pour comment le définir. Donc ça aussi, le définir le podcast, là, ça a été quand même un petit processus.
Oh, on a beaucoup parlé de ça, notamment avec toi. Là, j'ai beaucoup échangé et avec Vincent aussi, justement pour réussir à savoir comment construire cette formule-là, parce que là, c'est la première fois que je démarrais mon podcast. Fait que là, j'ai eu à réfléchir beaucoup, réfléchir sur le nom, parce que le nom n'est pas sorti, puis le nom, c'est toi, notamment.
Ah hein? Oh oui, je me souviens qu'on avait eu beaucoup de mauvaises idées pour le nom du podcast, mais finalement, oui, c'est vrai que il me semble que c'était mon idée, il me semble.
Ben, t'en fais partie, là. T'en fais partie de l'idéation qui... Qui a émergé de tout ça. Puis d'ailleurs, c'est même très drôle. Puis c'est ça, ça fait partie des anecdotes. Parce que Polysécur, ça vient genre le polyhorizon, machin, la diversité, tout ça. Et pour les gens de Montréal, ils pensent que c'est un podcast de la Polytechnique.
Ben oui, c'est... ça fait du sens.
Puis il y a plein d'autres éléments comme ça qui ont sorti par après. Après avoir choisi le nom, puis un moment donné, ben, on s'est rendu compte. Parce que dans les premiers temps, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle, mais une fois que t'es parti avec, fait, tu continues jusqu'au bout. Puis
ah,
finalement,
oui.
c'est le brand a fini par émerger parce que c'était souvent retrouvé dans les recherches de polyamoureux.
Aussi de polytène, il me semble qu'il y avait
une espèce de
site web qui vendait du polytène, là, des rouleaux de plastique. Là. Et ça s'appelait
Polysécur. Oui, il y a eu plein de choses comme ça, mais en même temps, c'est un élément qui était inexistant en 2020, qui est né fin 2020, début 2021, dans lequel les premiers épisodes ont apparu, les premiers enregistrements. Mais tu sais, ça partait d'absolument rien, d'aucune idée, à part une idéation qu'on a faite, genre probablement dans mon salon en plus, qui a émergé comme ça, puis on a trouvé « Ah, c'est une bonne idée », puis on est parti avec.
Oui, bien, on cherchait beaucoup de noms avec les thèmes ouverture, multidimensionnel, plusieurs aspects, plusieurs segments. Donc, on essaie de trouver quelque chose qui fitait dans cette ouverture-là, dans cette diversité.
Belle poly, c'était vraiment la diversité. Là, c'est tout azimut. Je pense qu'on avait soit choisi comme moto qu'on a mis en dessous. Là, effectivement, tout ça émane de ce moment-là de réflexion. Et d'ailleurs, les premiers épisodes ont été enregistrés avec toi, entre autres, là, justement parce que tu m'as un peu aidé dans mon pétrin là, dans ce contexte. Et Vincent aussi a participé beaucoup plus dans les premiers épisodes que par la suite. Là, mais Oui, vous avez été parti de cette idée un peu folle de plan qui a comme émergé de nulle part finalement, puis que je me suis comme emballé tout seul avec, puis je suis parti. on m'a comme craqué, puis je suis parti en courant avec le plan. Là.
Oui. Oui, oui, c'est vrai. On avait été, en tout cas, moi, personnellement, j'avais été un petit peu plus active là, au début. Puis aussi, on a eu une phase d'idéation aussi pour trouver le logo.
Oui, oui, oui. Ben, le logo là, qui est les trois, le cerbère, là, les trois têtes de chien qui représentent ça. On a fait beaucoup de ça. J'ai fait affaire avec une firme professionnelle pour le design jusqu'à temps qu'on arrive avec le logo qui est là, qui finalement qui a été accepté par les idéateurs sur lesquels représente un peu cette idée-là. Méchant, mais pas trop. C'est un peu toujours l'espèce de difficulté en cyber parce qu'on veut, surtout la vieille génération, là, de vieux hommes blancs comme moi, où on se voit comme de vieux pirates méchants puis qu'on s'affirme de telle façon et comme ça. Puis dans le fond, on veut représenter cette espèce de côté nihiliste-là dans ce qu'on représente. Mais là, il fallait aussi représenter le fait que moins, donc un peu plus neutre, un peu plus... moins méchant, mais avec un petit peu de méchant quand même, parce que j'aime ça.
Oui, c'est ça. Un serveur méchant entouré d'un shield. Là, fait que, ouais, on avait eu bien du plaisir là, à réfléchir à tout ça. Donc, Polysécure est né. Puis, on avait aussi déjà, à cette étape-là, commencé à parler des segments. Donc, est-ce que tu veux nous parler d'un peu la réflexion derrière les premiers segments et quels qu'ils étaient?
Ouais, qu'ils étaient à l'époque, oui, puis ça fait partie un peu parce que Polysécure, mon premier podcast à moi, donc mon premier projet qui même si ça a été initié autour de moi, qui est quand même, je l'ai comme pris, puis je suis passé à courir avec, je trouvais important d'y mettre certains axes par rapport à ça, notamment d'aborder des différents publics, parce qu'il y avait comme un objectif de transmettre de la connaissance, transmettre un peu la sensibilisation, puis ça répond à ce que je suis aussi fait. Ça l'a un peu représenté ça. On est allé sur 4 segments en démarrage, c'est-à-dire grand public, PME, professionnel et technique, qui sont essentiellement, si on le prend en gradation, qui est d'un côté de plus grande vulgarisation à un plus faible vulgarisation. Donc, on met beaucoup plus d'explications et on essaie de... Parce qu'il y a des gens qui connaissent ça très peu. Donc, on emballe énormément avec des concepts et des choses pour les aider à comprendre tranquillement jusqu'au segment technique. Où on a fait affaire, on a des gens qui sont très connaissants dans le domaine, donc on passe moins de temps à expliquer les concepts. On présume que ceux qui écoutent les possèdent déjà, même si généralement quand je fais des séries, j'ai fait en gradation pour augmenter la connaissance, mais quand même il demeure qu'il y a des a priori de connaissance. Fait que c'est ça que ça commence comme ça, justement, parce que la façon dont on parlait, est-ce que ma vision de la cyber, comment je vois les choses, comment je voulais que ça aille là-bas. Et ça l'a changé cette année. Cette année, au moment de la diffusion, c'est l'année passée, parce qu'on va diffuser en 2024. Milieu 2023, pendant mes vacances, ça m'arrive d'en avoir. Puis les idées émergent souvent dans ces périodes-là, de rajouter 2 nouveaux segments, ou plutôt de transformer le contenu que j'ai et les mettre dans des nouveaux segments qui sont juridiques et humains, qui ne respectent pas la logique de gradation qui était initiale. Mais qui sont vraiment des domaines spécialisés. Autant j'ai énormément de plaisir à parler de volet tout ce qui est PRP, notamment, loi 25 au Québec, C27 au fédéral, il y en avait C21, je pense, qui était avant C27, et RGPD en Europe, qui sont des choses qui viennent énormément structurer le domaine de la cyber. Donc, j'ai eu beaucoup d'avocats qui sont venus expliquer ces domaines-là, différents éléments de la protection des renseignements personnels. Donc, j'ai décidé de mettre un segment pour vraiment les séparer pour que les gens qui s'intéressent spécifiquement à ça puissent s'y consacrer ou aller comme ça. Fait que j'ai tout renommé ou reclassifié là-dedans. Et le volet humain, qui est un autre aspect qui, avec les années, je mets énormément plus d'emphase sur ça dans ma profession. Donc, j'ai décidé d'en mettre une plus grande emphase sur le podcast également. Donc, d'y créer son segment. Et j'ai reclassifié là aussi beaucoup d'épisodes qui ont été enregistrés, par exemple avec Ingrid et Marina ou Ingrid et Alexandre, dans lesquels on abordait énormément l'humain comme étant la pièce centrale de la cyber et non que Ingrid aime bien technocentré. C'est-à-dire que c'est pas technocentré, mais c'est vraiment centré sur l'humain. Donc d'amener ce changement de regard-là, fait qu'elle était, elle a contribué à mon cheminement là-dedans notamment, puis c'est un des aspects qui est très intéressant du podcast. Mais justement, comme ça prenait une ampleur très grande, j'ai décidé d'en faire son segment. et j'en profite dans ce segment-là également, d'y aborder des éléments qui sont moins liés à la cyber, mais qui sont liés aux gens qui y travaillent aussi. Donc, je me sens de ma tribune pour communiquer des éléments humains à des gens qui vivent peut-être un peu plus de solitude.
C'est vraiment intéressant, tous les segments, puis à qui ça s'adresse. Là. C'est sûr que tu sais, dans les volets curieux, on prend beaucoup plus le temps de poser des questions, de définir des concepts et tout ça. Le volet PME, c'est quand même décortiqué puis beaucoup expliqué, mais plus appliqué à la réalité de qu'est-ce que les PME vont avoir comme défi, mais aussi qu'est-ce qu'ils ont comme ressources. C'est un peu plus différent que les gens qui ont accès à beaucoup de jouets, disons.
Oui, puis il y a des éléments très importants, puis on va sûrement en reparler plus tard dans le podcast. Je suis tributaire de la qualité des collaborateurs que j'ai. Là, tu parles du volet PME, c'est vraiment Émeline qui a donné l'impulsion à ce volet-là maintenant que vraiment son existence complète et entière de elle. Puis c'est une rencontre heureuse qui a eu lieu. Puis c'est un des éléments que j'adore du podcast qui me permet de rencontrer des gens exceptionnels comme Émeline notamment, auxquels on a juste échangé des courriels. Puis finalement, elle est devenue une collaboratrice permanente du podcast à laquelle on échange beaucoup d'informations qui sont adaptées et qui sont dirigées vers les PME justement dans un discours qui est adapté dans des délais de temps, parce que des podcasts, on peut. Certaines techniques vont probablement durer en général une heure. Les PME n'ont pas ce temps-là. On les tient en dessous de 30 minutes, justement, pour distiller ce qui est important pour eux autres, pour amener la conversation à ce qu'eux ont besoin dans la réflexion et non de s'empêtrer avec des grands concepts de grandes entreprises qui sont complètement farfelus pour une PME. Là.
Ah, effectivement. Moi, j'aime personnellement beaucoup écouter Émeline, là, parce que je comprends rapidement de quoi qu'elle parle, puis elle reste très, très terre à terre. On se perd pas justement dans les nuages, puis on reste dans le concret. Donc, j'aime beaucoup l'écouter, effectivement. Là, c'est une belle force là, pour le Polysécur. Puis, si je m'en vais vers les autres segments, donc, le segment professionnel puis le segment technique, c'est pas nécessairement les mêmes publics. Là, je serais intéressé à ce que tu le définisses parce que ça peut porter à confusion.
Oui, jusqu'à certains points, ça peut porter effectivement comme ça à confusion. À la limite, c'est très drôle de dire comme ça, le segment professionnel ou ce qui est nommé, quand je le tague spécial sur les choses de diffusion. Ce qui fait que c'est comme un peu mon fourre-tout. Le volet pour ça, quand je sais pas trop le mettre, je le mets dans le professionnel. Technique, lui, il est plus facile à qualifier parce qu'on aborde de façon très, très pointue et très approfondie des concepts en cyber. Juste pour prendre l'exemple d'une série que je suis en train de faire avec Clément Cruchet, notamment, sur les thèses d'intrusion en info nuagique. On aborde surtout des techniques d'attaque, la façon de réussir à élever ses privilèges, les façons de réussir à conserver une persistance dans les attaques et ainsi de suite. Donc, on descend vraiment dans un peu plus dans le quotidien des gens qui travaillent de façon technique en cyber. Donc, comment eux voient le monde. Donc, il y a une base, comme je mentionnais, une base d'a priori qui est beaucoup plus grande. Donc, on présume que ceux qui écoutent ont déjà un très haut niveau de connaissance. Donc, on n'explique pas nécessairement dans le grand détail ce que c'est parce qu'on présume que c'est connu, puis on descend dans des concepts très, très précis. Puis là, on s'amuse parce que c'est super chouette. Là. On a plein de techniques, puis on partage nos expériences à travers ça. Mais si on revient dans du volet très, très, très précis, que c'est vraiment pas pour tout le monde ce genre de choses-là. On s'adresse à un public plus restreint, en quelque sorte. Quand le volet professionnel s'adresse plus à tous les professionnels en cyber, qu'ils soient dans des contextes de gouvernance ou dans des contextes techniques, peuvent se retrouver leur compte. Contrairement dans le contexte technique, ceux qui sont dans la gouvernance ne comprendront probablement rien de ce qui va être discuté ou un gestionnaire ne comprendra rien, contrairement dans le volet professionnel qu'un gestionnaire en cyber va être capable de comprendre et qui s'adresse notamment à eux autres. Là.
Merci d'avoir clarifié. Pour les segments juridiques puis humains, moi j'ai l'impression qu'ils sont très, très accessibles à tous. Là. Pas besoin d'être juriste pour comprendre le juridique. Je pense que c'est bien expliqué, bien simplifié. Est-ce que tu veux commenter
un peu? Oui, c'est ça. Ces deux-là, ils sont nés, mais ils ne sont pas nés dans la même logique que les quatre premiers. Ils sont vraiment des domaines parce qu'ils sont suffisamment imposants qu'ils méritent leur propre segment à eux autres. de fait que parce que techniquement, sur YouTube présentement, et ça va être sur d'autres plateformes plus tard, on peut s'abonner qu'à ce segment-là. On peut ne pas avoir écouté l'ensemble, on peut juste écouter les segments qu'on veut. Donc, il est présumé que les gens qui vont vouloir écouter le volet juridique, donc protection des renseignements personnels, vont avoir un intérêt à ça et n'auront pas nécessairement d'intérêt pour les autres domaines. Mais oui, comme tu dis, c'est très accessible. C'est justement fait pour amener cette compréhension-là des éléments juridiques. Loi 25, dans beaucoup de cas, parce que ça a été ça qui a animé beaucoup de conversations au Québec l'adoption de cette loi-là, mais quand même le RGPD en Europe, certains éléments comme ça. Je parle avec certains avocats français qui sont très, très chouettes et très drôles d'ailleurs, où j'adore il y a des expressions que je trouve magnifiques pour exprimer certaines réalités que eux vivent. Mais justement, de nous expliquer un peu comment le droit français fonctionne. Pour moi, comme Canadien, c'est un peu plus abstrait parce qu'on est dans un contexte d'un régime légal plus common law, plus britannique. Parce qu'en Europe, dans l'Europe continentale, on est plus dans un contexte romain civiliste, donc on n'est pas tout à fait dans le même univers. C'est très intéressant de voir ça, mais c'est fait pour satisfaire ma curiosité. Mais de cette curiosité-là, c'est fait aussi d'être très accessible parce que je rends les questions et je m'arrange que ça soit vulgarisé de façon très intéressante, juridique. Valet humain est particulier, parce autant comme avec Ingrid notamment, on va parler de toute la place de l'humain dans l'univers de la cyber, autant j'ai commencé plus récemment à intégrer des volets où on va parler de l'humain. C'est-à-dire que j'utilise ma plateforme pour pouvoir communiquer des éléments qui vont toucher les humains qui travaillent en cyber, parce qu'on aime bien se dire dans notre communauté qu'on a plus de problèmes de santé mentale, on est plus dans le stress, dans l'épuisement professionnel, et ainsi de suite. Et je ne sais pas s'il y a des statistiques réelles qui démontrent ce qui est clamé, mais minimalement, on aime bien le dire. Enfin, j'utilise cette plateforme-là justement pour adresser ces sujets-là, mais pas d'une façon de pleurnicher sur le fait qu'on est comme ça, mais de se donner des outils et d'amener à qu'on puisse parler plus librement d'éléments particuliers ou que ça, minimum, ça c'est sûr, là, comme la neurodivergence notamment, il y a une plus grande concentration en cyber parce que pour une raison qui m'est inconnue, ça attire plus les gens comme ça, ce domaine-là. Donc, on a une plus grande concentration en TI en général, mais en cyber en particulier. Donc, d'utiliser cette plateforme-là pour rejoindre ces gens-là, pour leur donner peut-être un tremplin pour être capable de mettre des mots sur ce qu'ils vivent et d'être capable de se propulser ailleurs. Puis un peu le volet plus ARH de ce que je suis.
Fait que là, ça, c'est le moment où ce que moi, j'ai une influence sur toi.
Absolument, c'est important. Je me laisse influencer. Le podcast est parti parce que je me suis laissé influencer. Donc, je suis influençable jusqu'à un certain point, mais je suis influençable.
Oui. Non, mais les segments, c'est vraiment intéressant. Tu sais, tout le monde... peut trouver chaussures à son pied. Tout le monde a quelque chose qui peut leur parler dans tous les segments. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis les gens peuvent aller aussi loin qu'ils le veulent, au degré qu'ils le veulent. Donc, c'est ce que je trouve vraiment pertinent de tous ces segments-là. Quel est le segment qui t'aurait le plus appris?
J'ai appris dans tous les segments parce que tout émane de ma curiosité. La plupart des épisodes, plus que 80% des épisodes, j'ai appris quelque chose parce que je cherche souvent à répondre à des questions que j'ai à travers ça, des curiosités. L'autre raison pourquoi j'allais choisir les épisodes et les sujets des épisodes et mes invités, là, mais quand c'est moi qui peux choisir parce que parfois c'est mes invités qui le font, c'est vraiment quand j'entends des âneries autour de moi. Je m'arrange pour avoir un ou des épisodes qui vont venir un peu clarifier les choses. Enfin, je me sers du podcast comme un élément pour diffuser et pour raffiner ma connaissance. Ça au sens large. Au sens plus précis, dans le technique, il y a certains épisodes où j'ai appris énormément de choses parce que je suis face à des gens qui sont excessivement connaissants dans leur domaine et ça me fascine de les entendre. Je suis époustouflés par ce qu'ils peuvent partager au sens pur technique. Ça, c'est dans ces épisodes-là. Je retire dans les épisodes juridiques une amélioration de ma connaissance au niveau de l'application des lois. C'est important, je ne suis pas un juriste, mais j'aime bien pouvoir parler intelligemment de la loi 25, ce qui n'est pas toujours le cas de ce que j'entends autour de moi, mais bref, moi je fais un effort minimal pour avoir augmenté ma connaissance. Fait, j'allais chercher beaucoup là, parce que j'en ai beaucoup moins ces temps-ci. Question, c'est moins central. Et le volet humain a forgé beaucoup de ce que je suis comme professionnel maintenant. Je dois beaucoup à Ingrid son énorme partage en 2021. Enfin, quand j'ai commencé à enregistrer, puis j'ai réussi à la convaincre de participer de façon relativement fréquente au podcast, où elle m'a fait un partage extraordinaire de ses connaissances au niveau de l'humain et incitant son projet de recherche ensuite, Drift, qui est devenu central à ce qu'elle fait présentement. Donc, ça l'a influencé ma perception, ma compréhension des choses. Fait que ça, j'ai énormément appris et tout ce qui s'en est suivi autour de ça, Ingrid en fait partie, mais le grand ensemble de l'humain aussi m'a beaucoup fait cheminer comme professionnel en cybersécurité.
C'est super intéressant, puis je suis certaine que ça a résonné chez beaucoup de gens ou beaucoup de professionnels en cyber qui vivent un peu les mêmes défis que si ça a résonné pour toi, ça a sûrement résonné pour d'autres personnes. Prochaine question, en parlant de collaborateurs, comment est-ce que tu les choisis?
Il y a un peu de tout, puis ça, c'est l'endroit le plus intéressant. Puis dans le fond, on ouvre un peu le kimono en expliquant comment ça fonctionne. Puis je pense que tu vas me poser d'ailleurs une question sur... Ouais, mais c'est une expression anglophone, une traduction littérale de l'anglais. Là. je fais beaucoup ça. Là. Ma blonde me le reproche énormément de parler avec des expressions anglaises constamment. Mais ça, bref, le message est passe quand même. Donc, c'est l'important de la communication. Ça fait partie de cette ouverture-là sur les dessous du podcast. Tu abordes sur les collaborateurs, mais tu vas aborder sur d'autres aspects plus tard. Collaborateur, c'est un ensemble de circonstances. Ça va du monde dans mon entourage, comme toi, tu en fais partie, du monde que j'ai réussi à convaincre dans mon entourage de participer dans cette aventure un peu folle. Des gens que plus éloignés, là, Ingrid est un exemple d'une personne plus éloignée, que je trouvais que son contenu était super intéressant, super pertinent. Donc, j'ai réussi à la convaincre comme ça. Autant c'est des coups au hasard où je me suis essayé puis j'ai réussi à rejoindre des personnes. Beaucoup des avocats que j'ai eus ou avocates que j'ai eues sur le podcast, c'est des choses comme ça où j'ai écrit un adresse générique d'un bureau d'avocat, puis il y a des avocates, je demande des avocates plus que des avocats, qui ont répondu puis qui se sont prêtés à l'expérience de vouloir participer puis de venir partager de leurs connaissances juridiques. Là, sur le podcast pour démystifier certains aspects de la loi 25 ou des lois du RGPD, par exemple. Il y a des éléments comme ça. Sinon, c'est des rencontres fortuites dans des colloques, dans des différentes places comme ça qui me permettent de rencontrer des gens excessivement brillants, intéressants, dans lesquels on finit par parler et ça mène à ce type de collaboration-là. D'ailleurs, j'en ai trois nouveaux qui s'en viennent pour 2024 qui ont été rencontrés en novembre dernier à l'Europe en cyberrue. Fait que c'est tous des éléments comme ça. Il y a des collaborations spontanées. Emeline, là, je la recite encore parce qu'elle est quand même est un pivot très important du podcast, qui a été une sollicitation comme ça, qui émettait une opinion sur le podcast, qui a fini par une collaboration. Donc, ça arrive aussi qu'il y a des gens qui lèvent la main. Qui apparaissent. Il y en a eu beaucoup d'autres. Là. J'aime beaucoup le cas d'Emeline parce que dans les très débuts, puis ça m'a plus marqué parce que j'étais au début puis j'essaie de construire mon podcast. Puis son arrivée a changé un peu ma perspective sur les choses. Puis ça m'a donné beaucoup de bonheur à ce moment-là de voir qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ce que je faisais. Donc, c'est arrivé, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres. Clément Cruchet, plus récemment, également comme ça, qui partage un savoir très technique très, très intéressant. Donc, il y a plusieurs façons que ces personnes-là arrivent dans la sphère du podcast. Puis, pour terminer, puis ça, c'est en sollicitation directe. C'est généralement quand que j'entends des âneries autour de moi, pour revenir là-dessus. Mais quand j'entends des âneries, j'essaie de me trouver un expert quelque part qui est prêt à venir parler sur le podcast, parce que c'est pas tout le monde qui veut venir parler sur le podcast, de venir expliquer sa vision des choses, justement, pour défaire un mythe ou défaire un André que j'entends autour de moi. Il y en avait beaucoup en info numérique, il y en avait beaucoup avec la loi 25, par exemple, il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais j'ai cherché beaucoup des experts de façon de ma volonté pour les amener, puis justement, pour qu'ils puissent contribuer.
C'est assez diversifié comme, comme façon de recruter, si je peux le dire comme ça, mais c'est intéressant parce que ça amène des gens de tout azimut, de parcours différents, avec des expériences différentes. C'est vraiment une belle valeur ajoutée au lieu de prendre seulement quelques personnes spécifiques s'en tenir à ça, puis qu'on prétende des fois être expert de sujets qu'on ne l'est pas, mais on va tout le temps chercher l'expert qui est le maître du sujet, donc c'est intéressant.
Oui, ben c'est essentiellement ça, puis on en parlait, on a fait quand même un long pré-show pour celui-là. On va en parler un peu justement du fait de pouvoir admettre qu'on ne connaît pas un domaine, et justement d'aller chercher quelqu'un qui est capable de nous accompagner là-dedans. Moi, je fais énormément ça, j'admets rapidement que je ne connais pas le domaine. Je connais beaucoup de choses, cela étant, mais pas nécessairement en profondeur. On présente un très bon généraliste, un très mauvais spécialiste, ce qui fait que j'ai un spectre très large. Ça me donne un avantage sur le podcast, par exemple, parce que je suis capable d'aborder tous les sujets de mes collaborateurs jusqu'à un certain point, tout dépendant des sujets, ce qui me permet d'être capable d'alimenter des questions et d'alimenter ma curiosité aussi. Puis c'est ça qui alimente les questions généralement, c'est ma propre curiosité. Généralement, ça démarre je démarre dans une zone que je connais jusqu'à temps que je bascule dans une zone que je ne connais pas. Tout dépendant des sujets, il y en a que ça arrive plus ou moins vite, mais on arrive dans ce genre de choses-là. Fait que c'est un peu ça l'exercice, c'est toujours de me mettre dans un contexte, dans un domaine où je ne connais pas l'entièreté du sujet et de me le faire expliquer ou me faire accompagner par quelqu'un qui est beaucoup meilleur que moi, ou c'est parce que ce n'est pas mon domaine, ou parce que je n'ai pas ce degré de connaissance technique-là, ou parce que je n'ai pas cette expérience-là. Ces gens-là ont cette grandeur de vouloir permettre de partager ces choses-là avec moi en premier et ensuite sur le podcast pour le bénéfice de tous.
Clairement, ça se sent dans la qualité là, des épisodes qu'on écoute. Puis oui, effectivement, on a fait un pré-show. Là. J'ai quand même partagé mes questions. Là. J'ai été gentille pour ne pas te coincer dans des zones obscures.
Dans un petit coin noir.
Mais ça fait partie quand même des choses que tu as appris en produisant des podcasts, c'est à se préparer à l'avance pour certains trucs. Donc, justement, mes prochaines questions sont un petit peu plus par rapport à la production de podcasts, parce que tu as quand même développé une belle expertise là-dedans. C'est quoi les choses que tu as apprises depuis la création du Polysécur en ayant trait à la production de podcasts?
Pour la production, même là, tu as abordé le fait qu'on trouve des collaborateurs, parce que moi, mon podcast est une formule auquel c'est la vedette, c'est pas moi, la vedette, c'est mes collaborateurs. Puis c'est vraiment très important. En général, l'exception, c'est l'exception ici. Là. Puis c'est clin d'œil, ben toi, tu l'as fait. Il y en a d'autres qui m'ont dit, ah, je vais te passer à l'entrevue sur ton podcast, puis ils ne l'ont pas fait. Toi, tu l'as fait. Puis d'ailleurs, c'est ton idée qu'on se parle comme ça là, sur lequel je trouvais que c'était une excellente idée d'ailleurs. Production du podcast, il y a plusieurs facettes à ça. Là. On a abordé les collabs. Il y a tout le volet technique qui est associé à la production d'un podcast. Le confinement puis moi, j'ai commencé mon podcast dans le confinement, fait que c'était tous des outils en distanciel que j'ai utilisés. Donc, j'avais utilisé une plateforme spécialisée. Dans les faits, j'avais commencé avec Zoom, puis on m'a dit que c'était pas bon parce que j'ai un collaborateur qui a une oreille, une très bonne oreille, puis il m'a dit « Ouais, ton son, il est pas super top, machin. » Fait que là, j'ai changé pour une meilleure plateforme qui enregistre vraiment top qualité au niveau du son. Puis, dites-moi pas dans les commentaires que oui, mais Zoom, on est capable de le faire. Je dis oui, mais non, parce que ça fait pas ce que je veux. Il y a d'autres nuances importantes à faire quand on va dans ce genre de choses-là. Ensuite, il y a toute la volée d'enregistrement, la volée présentielle maintenant qu'on fait, comme on fait présentement, qui amène une dynamique différente aussi d'ailleurs, là, qui est beaucoup plus intéressante, mais plus dynamique, disons, qu'ils ne mettent pas le même vibe. Puis la qualité du micro des deux côtés est d'égale qualité, là. C'est pas tous les collaborateurs qui ont les mêmes qualités de micro aussi. Ça aussi, c'est des défis. Ça aussi, c'est des éléments particuliers quand on avance là-dedans. Ça, j'ai eu des commentaires là-dessus, mais dans l'absolu, vu que les collaborateurs font ça gracieusement, ben c'est un peu malaisant de les dire « Ouais, mais tu sais, ceci, c'est pas très bon. » Fait que j'accueille ce que je reçois parce que déjà, cette très grande générosité-là, l'accueil comme tel. Peut-être des fois, un petit peu d'accompagnement, mais je ne vais jamais plus loin que ça. J'ai des outils ensuite, des logiciels qui viennent traiter le son. Puis là aussi, mon ami qui a une bonne oreille, alors, quand il m'a dit que Zoom, c'était poche, ensuite il m'a dit que mon traitement n'était pas bon. Fait que les premiers épisodes, la première phase n'était pas très bonne au niveau du montage sonore. Et j'ai refait le mastering au complet depuis le début. Fait que la plupart des défauts qui étaient là ont disparu depuis. J'ai relativement retiré les problèmes qui m'avaient été soulevés parce que je ne suis pas un expert là-dedans. Fait que j'apprends. Puis ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Parce que j'ai beaucoup d'apprentissage. Je fais des tests et erreurs. Beaucoup pour apprendre. Tu as sourcillé, que tu as souvent une question qui a émergé.
Non, ben là, il me semble que tu disais que tu produisais trop le son. C'est quoi que tu faisais qui n'était pas correct?
Il y avait trop de traitement au niveau du son parce que j'utilise des logiciels. J'ai une suite de logiciels qui manipulent le son, notamment pour retirer la respiration, retirer les bruits de bouche, le bruit ambiant, qui fait un certain nettoyage au niveau du son pour en assurer une qualité relativement uniforme ou qui est plaisante à l'écoute minimalement. Et cette personne m'avait dit, j'en faisais trop, fait que je devais trop compresser ou trop gosser dans les affaires de son. Puis là, je ne m'y connais pas beaucoup. Fait que si vous êtes des ingénieurs en son, vous pouvez me lancer des tomates parce que je suis vraiment pas très bon. Je fais du mieux que je peux, j'apprends.
Ben, ou ils peuvent aussi offrir des conseils gentiment, simplement.
Ben, j'en ai, mais des fois, c'est pas tout le temps des conseils que j'en reçois. Des fois, j'en reçois des tomates. Fait que, maintenant, on s'habitue. Fait que là, j'ai un mur à tomates où je collectionne les tomates que j'ai reçues. Mais bref, c'est ça. Il y avait comme trop de compression, trop de traitement dans le son, ce qui dénaturait un peu la qualité du son. Puis il y avait un peu aussi à cette époque-là, parce que j'étais intéressé à aller chercher une certaine forme de sonorité. Puis dans cette recherche-là, ben, je dénaturais le son. Je suis revenu plus à un son moins traité. Il y en a quand même beaucoup parce que sur un épisode d'une heure en termes de montage, de traitement sonore, j'en ai à peu près pour une heure et demie à deux heures juste de traitement informatique. C'est pas moi qui travaille. C'est pendant deux heures, il y a du traitement qui s'exécute pour nettoyer, pour arranger le son, pour faire le montage, pour tout mettre en œuvre. Dans lequel je fais ça. Fait que ça, c'est la partie logicielle auquel on patente. Il y a la technique, les micros, les affaires à distance. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut avoir une plateforme de diffusion. Moi, dans mon cas, ma plateforme, c'est moi qui l'héberge parce que j'ai décidé de faire l'exploration complète du chemin qu'elle a avec ça parce que ça m'intéresse de comprendre le processus. Comme c'est moi qui fais le montage du son, puis je veux apprendre, puis je continue à apprendre. La même chose pour le site web. Est hébergé sur ce genre de choses-là, puis les inscriptions qui se font. Fait que ça, c'est un peu le point de vue, ce que ça prend. J'ai pas de façon de le faire. Oui.
Ça serait quoi les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut produire un podcast en cybersécurité demain matin?
Demain matin, ben, il faut la passion. Le point le plus fondamental, c'est d'être passionné. Je pense que vous avez compris à quel point je m'attarde à tous les petits détails. Parce que je suis excessivement passionné par ce que je fais. Ça m'intéresse. Je creuse autant au niveau des sujets avec les collaborateurs, autant au niveau de tout ce qui est le contenant, c'est-à-dire comment on produit le podcast, comment on le diffuse, apprendre comment fonctionnent les médias sociaux, apprendre comment on fait la promotion de ces affaires-là. Donc, je ne suis que dans l'apprentissage du fonctionnement de ces outils-là et je suis très curieux de l'usage de ces outils-là. Fait que ça aide énormément parce que il y a quand même plusieurs heures qui sont passées là-dessus. Donc, d'y consacrer ça demande ce degré de passion-là. J'ai vu à travers les années des gens qui se sont lancés, qui ont abandonné parce qu'ils pensaient que c'était une bonne idée ou des gens qui pensent se lancer et qui ne sont jamais lancés aussi d'ailleurs. Parce que soit ils ont peur de se lancer, ça c'est une chose, puis ça, il ne faut pas avoir peur de se lancer, il faut pas. Parce qu'on n'a pas leur sort des tomates, mais dans le fait, on en reçoit tout le temps. Fait, à un moment donné, quand tu t'achètes un bouclier à tomates, puis ça va mieux.
Ou si vous avez peur de se lancer, vous pouvez toujours aller prendre une bière avec Vincent, il va vous influencer vers la bonne direction.
Oui, je pense que c'est Vincent, l'influenceur, le plus gros influenceur, mais oui, effectivement. Passion, ça prend pas beaucoup de logiciels, pas beaucoup de choses. Je regarde malheureusement le podcast qui a arrêté, là, Incidence. Et Virginie avait quand même un setup assez minimal pour le faire. Puis ça fonctionne très bien, très bonne qualité de ça. Elle hébergeait sur SoundCloud, je crois. Elle faisait ses montages en Audacity. Puis elle réussit à faire ses affaires comme ça. Puis elle s'était tous ses plans. Puis donc, puis elle se lançait une fois ou deux semaines, je crois. Ou une fois par semaine, tout dépendant des moments. Donc, de réussir à faire ce genre de choses-là. Donc, si ça vous intéresse, c'est pas la technique le problème. C'est juste d'avoir peut-être un peu de régularité. Puis même encore moi, au début, j'avais pas beaucoup de régularité dans mes façons. Fait que, choses qui ont changé, j'ai appris, je suis régulier, je prends mon All Brand, fait que tout va bien. Là.
Puis le podcast a évolué beaucoup dans les trois dernières années. Qu'est-ce qui a généré autant de changements?
La formule initiale, autant on a fait de l'idéation ensemble, autant on a regardé des choses comme ça. Il demeure que j'arrivais avec un certain bagage de production de podcast que j'avais. Et j'ai démarré avec ce bagage-là. Parce que bon, c'était la zone dans laquelle je m'y connaissais le plus, où j'étais à l'aise. Et avec le temps, le podcast s'est transformé pour me ressembler davantage. Donc, il a pris de plus en plus. Dans le fond, c'est pas le podcast qui a pris copie sur moi, c'est moi qui a tranquillement mis à travers le podcast ma personnalité. C'est moi qui transcende à travers ça, qui fait évoluer. Donc, ce qu'on voit maintenant est le résultat de ma propre évolution personnelle et professionnelle des trois dernières années. Toujours un peu en décalage. C'est jamais immédiat. Ça peut être toujours près de 3 à 6 mois de décalage entre où je suis rendu dans ma vie professionnelle et personnelle. Et ce qui va apparaître sur le podcast, mais le choix des sujets est conséquent par rapport à ça. Le choix de la façon où l'énergie je le mets, la façon que je le produis, les moments où je décide de thématiser, un des éléments que j'ai beaucoup de plaisir à faire, c'est de thématiser la production du podcast. Donc, il y a plein de petits détails comme ça qu'avec le temps, qui évolue que par ma curiosité, par où je suis rendu, parce que je viens de croiser. Je vais faire le spécifique, c'est qui? Là? C'est Davy, qui est mon ingénieur de son, là, qui m'a rappelé à l'ordre. Pas mal dans les débuts, j'ai commencé à enregistrer avec lui, puis qui m'a souligné certains éléments, et de ça est né des éléments. Fait que je me fais influencer encore, parce que c'est ça là que c'est comme ça, mais je me fais porter par des conseils de gens bienveillants autour de moi, qui m'amènent des conseils, un pour améliorer la forme ou améliorer le fond du podcast, mais il demeure que c'est moi qui transcende à travers ça, parce que c'est quand même mon projet que je mène sur mes épaules, puis dans lequel je me sers pour me faire montrer d'autres, mettre de l'avant d'autres personnes que je trouve très importantes et qui donnent beaucoup de valeur au domaine.
Oh, c'est très intéressant de voir ça aussi, puis ça reste toujours très pertinent et actuel, là, donc ça reste, ça change bien, ça change dans le bon sens. J'aurais d'autres questions plus sur l'humain derrière le podcast. Qui est Nicolas Lake?
Mais qui est-il celui-là? Qui est-il?
On se le demande encore.
Oui, parce qu'il se nomme dans aucun épisode.
Donc j'ai fait exprès de te nommer.
C'est très bien comme ça. C'est très drôle parce qu'il y a longtemps, justement comme je me nomme pas, les gens ne savaient pas que c'était moi qui étais en arrière parce que comme je ne nommais jamais mon nom. Puis ça fait partie aussi de la volonté en général de mettre l'autre personne, le collaborateur, en avant parce que c'est eux qui amènent le contenu, ce genre de choses-là. Je ne suis qu'une plateforme pour aider ces gens-là à déposer, à mettre de l'avant leur contenu. Mais spécifiquement, qu'est-ce que tu veux savoir sur Nicolas Lake? sur l'humain?
L'humain a participé à beaucoup d'événements en cybersécurité en 2023. Tu en as partagé certains là, sur le Polysecure. Donc, en tant que participant, c'est quel ton événement de coup de cœur en 2023?
On va aller avec un événement en français et un événement en anglais parce qu'il y a quand même une très grande diversité puis chacun des deux environnements est très important. Mon événement francophone préféré, c'est l'European Cyber Week. Parce que j'y découvre là un climat intéressant et autant des jeunes en innovation, des startups, des gens d'expérience. Comme c'est en France, l'armée est très présente aussi, mais dans un contexte d'ouverture et de partage. le volet académique est présent, ainsi de suite. Fait qu'il y a un amalgame de sujets qui est exceptionnel dans un événement comme celui-là. Puis j'adore ça. Dans l'espace francophone, en plus, c'est pour ça que je le souligne. Il est très diversé. Il y en a qui vont dire que certains événements francophones qui sont ou tout aussi intéressants ailleurs, mais sont beaucoup plus spécialisés. Lui, l'éventail et tout l'ensemble me plaît énormément. Événement anglophone, j'ai découvert le Blue Team Con cette année à Chicago. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est c'est très convivial comme événement. Je me cacherai pas, je suis allé là parce que je suis quand même en arrière du Secure, qui est un événement défensif. Comme le Blue Team Con aussi a une saveur très défensive au niveau de la cybersécurité. Donc, je voulais voir comment eux abordaient ça d'un point de vue organisation et point de vue du contenu et comment tout ça se faisait. Puis j'ai vu cette espèce de climat beaucoup plus convivial, beaucoup plus de proximité entre les conférenciers et les participants, un échange beaucoup plus ouvert, beaucoup plus facile de parler aux gens qui sont là sur place, ça, et tout ce que ça comporte. Mais je trouve ça très intéressant. Les gens sont très généreux aussi de leur temps. J'ai été mis en contact pour la première fois de ma vie avec le On Conference, qui est une espèce de salle où les gens viennent présenter de façon non préparée du contenu. Fait que soit ils viennent compléter des choses dans leur conférence, comme j'avais vu Evil Jinx qui est venu être présenté. Il avait fait la présentation dans une conférence, mais il est venu faire la démonstration dans le On Conference. Partage de ressources, des choses comme ça, c'est génial. Donc, j'ai beaucoup aimé ce vibe-là que je n'avais jamais vraiment vu dans des événements américains. C'est sûr que j'allais dans les plus gros événements américains, fait que c'est peut-être ça aussi qui joue. J'ai vraiment aimé l'esprit très familial ou convivial de cet événement-là, le partage des connaissances, puis tout ce que ça comporte comme chose. Je vais probablement y retourner cette année.
Tu avais partagé aussi une citation là, d'une conférence qui t'avait particulièrement marqué.
Oui, mais ça, c'est au Blue Team Con. Puis ça aussi, ça fait partie parce qu'on en a parlé en pré-show. Puis comme j'ai pas de mémoire précise, j'ai une mémoire du feeling des choses. J'ai pas de conférence précise que je vais aimer ou pour vraiment me flasher dans un événement. Mais là, il y a des fragments comme ça qui m'intéressent. C'est une citation d'un dude de Microsoft que le nom m'échappe parce que justement, j'ai une très mauvaise mémoire pour ce genre de choses-là. Les attaquants pensent en graphe, les défenseurs pensent en liste. Tant que ça va être comme ça, les attaquants vont toujours gagner. Ou les défenseurs vont toujours perdre. C'est ultra inexact comme citation, mais c'est l'idée de ça. Ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a permis de voir un des problèmes dans lesquels on est. Même si ça fait beaucoup d'années que ça a été cité, que ça a été dit, on est encore dans cet état-là des choses. À quel point on n'avance pas vite comme domaine, malgré tout. Et qu'on est toujours contraint par ces éléments-là. On n'est pas capable de cheminer ou de sortir de ces éléments-là. Donc, ça m'avait beaucoup marqué, puis ça m'avait réveillé. Puis, j'avais cité sur LinkedIn comme quoi, tu sais, j'étais comme sorti de nulle part. Puis, cette citation-là est arrivée pour moi au bon moment. C'est-à-dire que j'étais réceptif et là, elle valait quelque chose, puis elle a changé quelque chose dans moi. Puis c'est entre autres ça pour ça que j'aime beaucoup participer aux événements, parce que toutes ces petites bribes-là de choses où je suis prêt à l'entendre, je suis disposé et qui vont me changer, bien, je réussis toujours à en capter beaucoup dans ces événements-là, puis j'en sors toujours grandi, puis j'en partage un peu sur le podcast. Ça transcende mes conversations sur le podcast notamment, mais comme moi, comme individu aussi, ou professionnellement, ça m'aide à cheminer, à aller plus loin, là.
Oh, c'est intéressant. Ça donne envie d'aller au Blue Team Con. Dans le même ordre d'idée, en tant que professionnel cyber, qu'as-tu noté comme changement ou avancé dans le domaine en 2023?
C'est un domaine qui avance et avance pas en même temps. On a beaucoup de bruit, peu de vraies avancées. Je prends l'exemple du AI qui a fait beaucoup de bruit en 2023. Parce que quand ChatGPT est sorti, tout le monde s'est excité avec comment l'intelligence artificielle est arrivée en cyber et ce que ça faisait. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle en cyber existe depuis beaucoup plus longtemps. Fait que là, ça a distrait l'attention sur sur un élément qui, pour moi, est suffisamment, en tout cas, assez banal sur l'ensemble. Puis si on le regarde de façon de notre perspective, parce que les gens disent « Ouais, ben là, les malveillants vont disposer d'outils sophistiqués, ils vont pouvoir aller plus loin. » Vrai. Mais si ceux qui se défendent et qui pensent pas juste en liste, ou ils peuvent sortir de ce modèle-là, eux aussi, les avancées en intelligence artificielle du côté du Blue Team, des défenseurs, a aussi avancé à la même vitesse. J'ai vu dans les événements, j'en ai fait vraiment beaucoup en 2023, c'est Google Next, où toutes les avancées de Google sur l'amélioration des outils de cyber, avec l'intelligence artificielle, avec le LLM, avec tout ce que ça représente, et tant qu'à moi, ça a un effet nul. C'est-à-dire que autant les attaquants ont avancé, autant les défenseurs ont les outils pour compenser. Il faudrait qu'ils utilisent, ça c'est une autre histoire, mais on a dans la trousse d'outils toute la capacité pour ça. Fait que ça a l'effet nul, fait que ça n'a pas avancé. Ce qui a avancé, au-delà du bruit qui est là, l'humain est plus présent, on en entend plus parler, donc je me propose davantage ce genre de choses, cet intérêt-là de comment les choses évoluent. Sinon, ben quoi qu'on peut en dire, c'est comme un long fleuve tranquille, la cyber, en termes d'évolution. Puis l'exemple que j'ai là-dessus, c'est EvilJinx, LootingCon. L'outil existe depuis plusieurs années. Et il ne commence qu'à peine à être utilisé par les malveillants parce que les équipes de défense ont pris tellement de temps à mettre en œuvre les moyens pour lutter contre en arriver à utiliser cet outil-là qu'ils n'en ont pas eu besoin. Fait qu'ils n'ont pas eu besoin de changer leurs habitudes. Ils ont changé leurs habitudes que parce que on a commencé à obliger le MFA, par exemple. Fait que EvilJinx est utile pour contrôler le MFA dans ce cas-ci, mais comme ça nous a pris tellement de temps à l'imposer, eux, on n'a pas besoin de tuer. Fait qu'on s'énerve. Parce que ça revient toujours. On s'énerve avec des 0D, des affaires comme ça, quand on les fait, on ne fait pas, on ne contrôle pas l'hygiène de base. Et la seule chose, je pense, qui a vraiment s'est passé notable, c'est les ordres exécutifs aux États-Unis, où le président américain a imposé des règles de cyber qui vont cadencer ce qui s'en vient. Puis on est encore dans du législatif, encore dans des lois, encore dans du pouvoir gouvernemental qui fait là, de toute apparence, comme marché, on n'a rien fait nous-mêmes.
Donc, même s'il y a de l'intelligence artificielle, ça reste un combat à armes égales.
Oui, c'est pas à ce niveau-là que ça l'a changé encore. Et la plupart des experts avec qui j'ai parlé, on va prendre par exemple le cas du spam, ça j'en avais parlé au début de cette année. Puis les experts là-dedans me disaient, ça ne change rien parce que ce que le LLM va générer, c'est généralement ce qui est déjà attrapé par les outils anti-spam parce que le LLM ne fait que simuler ce que l'humain fait. Donc, c'est les mêmes tactiques ou les mêmes techniques sont utilisées avec le LLM. C'est juste que maintenant, il n'y a plus de faute d'orthographe, c'est un peu mieux écrit, mais il demeure que c'est les mêmes techniques, les mêmes tactiques. Fait que c'est les outils détectent à peu près au même niveau que c'était quand c'était un humain qui le faisait avant. Là.
C'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu souhaites pour la cyber en 2024 dans ton monde de licorne arc-en-ciel?
Dans mon monde de licorne arc-en-ciel, c'est qu'on enlève les silos, qu'on enlève ces étiquettes, qu'on arrête de travailler que pour nous-mêmes essentiellement. Là. Puis je le vois encore énormément en cyber et en TI aussi. C'est qu'on est au service de notre employeur, de l'entreprise qui nous embauche, du ministère, de l'organisme dans lequel on travaille. Ou peu importe la structure dans laquelle on est, nous paye. On est là pour les protéger. On n'est pas là pour leur donner des moyens techniques. On est là pour protéger leurs informations, protéger leurs acquis. Et à partir de ça, on va découler ensuite des moyens pour y arriver. Mais généralement, on va parler de moyens avant de parler de qu'est-ce qu'on veut protéger. Fait qu'on on prend pas la bonne façon pour y arriver. Puis ensuite, on est beaucoup dans les étiquettes, là. Je trouve ça un peu lassant de qualifier. On va parler un peu de gouvernance, de technique. Moi, je suis en cyber, je n'étais pas en cyber, sécurité de l'information, sécurité informatique, ce genre de choses-là. Mais je trouve que ça nuit à notre capacité à agir parce qu'on est déjà dans notre petite cloison. Et peut-être seulement dans notre petite cloison, mais on n'est pas capable d'élargir ou de, de voir le grand ensemble et de réussir à résoudre le problème de façon significative pour l'entreprise ou le ministère ou l'organisme pour lequel on travaille.
C'est super intéressant. Puis je pense que beaucoup d'organisations souvent ont des défis comme ça, d'être tous alignés vers un objectif commun. Puis, tu sais, moi, j'ai plus une expérience en ressources humaines, mais même si j'étais plus une experte RH, j'ai fait de l'amélioration continue, j'ai fait de la santé et sécurité, j'ai fait plus que du stratégique. J'étais allée couper des légumes à cafétéria pour donner un coup de main une journée, tu sais, rendu là, ça a aidé cette journée-là. Donc, tu sais, faut pas oublier qu'un but ultime pour l'organisation, c'est d'avoir du succès, de faire de l'argent pour nous payer. Puis qu'après ça, ben, tout ça roule. Puis en plus, on peut que tout le monde soit payé. La vie est belle. Puis on continue encore d'accomplir des grandes choses. Là. Donc, c'est très pertinent.
Tout à fait. Puis en ce sens, puis là, je pluguais un épisode que j'avais enregistré avec Stéphane Laberge. Ce sont des épisodes tout à fait fantastiques parce qu'on délire. Puis c'est un des aspects que j'aime beaucoup du podcast. Je le fais beaucoup avec Stéphane, mais je le fais avec d'autres aussi. On aborde des sujets puis on les brasse un peu. Dans ce cas-ci, cet épisode-là, c'est est-ce qu'on se prend trop sérieux? Puis ça revient à ça, le fait de mettre des étiquettes. Ben oui, on se prend trop sérieux. On n'est pas capable de sortir de notre zone. Mais si il y a quelque chose qui pourrait aller mieux, c'est qu'on sorte de notre zone, qu'on soit capable de communiquer correctement avec les autres êtres humains.
Quel beau défi! Donc, quand on a discuté là, de ce podcast-là, en fait, tu m'as juste simplement partagé que tu avais ton podcast de fin d'année qui s'en venait, que tu étais préparé, que tu avais déjà en tête tout ce que tu voulais faire. Puis là, ben, je t'ai dit, ben, pourquoi je t'interviewerais pas? Et tu as dit oui.
Oui, j'ai dit oui. Parce que je trouvais, comme j'ai mentionné, je trouvais que c'est une excellente idée. Ben, c'est parce que à la base, je suis un peu dans l'autarcisme. Pourquoi j'embêterais quelqu'un d'autre avec juste un épisode dans lequel je vais juste parler de moi-même, puis je vais parler de mon cheminement de podcast des trois dernières années, d'où je partais d'une idée un peu folle, discuter sur le comptoir de la cuisine à maintenant quand même un podcast qui se diffuse. J'ai une moyenne de 2,6 épisodes par semaine qui sont diffusés. J'ai quand même une machine qui roule quand même bien, automatisée. J'ai beaucoup d'excellents collaborateurs. Il y en a d'autres qui se joignent. Donc, j'étais comme un peu fasciné par ça. J'ai trouvé ça très intéressant que tu m'abordes avec ça. Puis, tu es la vraiment première fois que c'est sur mon podcast, du moins, que je me retrouve être dans la position de l'autre, de ne pas être celui qui pose des questions puis qui manœuvre là-dedans, mais de celui qui se fait poser des questions puis qui doit subir l'autre côté de ce que c'est. Mais je trouve que c'est une excellente idée. Probablement, ça devrait être fait plus souvent aussi. Mais c'est une zone où j'ai un peu de malaise parce que je n'utilise pas mes plateformes pour me mettre de l'avant. Comme au Sécur, je ne fais pas de présentation parce que je ne me sers pas mes plateformes pour me vendre moi-même, mais je utilise mes plateformes pour mettre de l'avant les autres. Dans ce cas-ci, ça me met un peu en contradiction avec moi-même, mais j'aime bien l'idée. Puis, dans le fond, on a eu énormément de plaisir à faire ça aussi. Puis, je trouve ça très drôle d'ailleurs aussi. Là. Fait que c'est très bien comme ça. Mais je dirais que tu n'es peut-être pas beaucoup plus à l'aise non plus. Fait que c'est tout à fait excellent comme ça.
Je te dirais que j'ai plus de plaisir comme ça que de faire juste un podcast habituel. Ça me fait bien rire. Je me souviens quand que je t'ai lancé l'idée, tu avais un regard de « Ah, zut, c'est une bonne idée ».
Oui, c'est ça, parce que ça a défait mes plans. Là. J'avais un plan dans ma tête, puis j'étais content de mon plan. Puis là, tu as fait comme tu étais avec un meilleur plan que le mien. Je fais comme toute cette préparation qui ne servira à rien finalement. Zut.
Puis finalement, tu te sens bien, ça va bien.
Oui, ça va très bien, ça va très bien. Je trouve que ça demeure une bonne idée, même après 54 minutes qu'on parle. Je demeure que c'est une très bonne idée. Donne une tribune que j'utilise pas normalement, puis je trouve ça très, très intéressant.
Donc, j'ai une dernière petite question humaine. Après ça, on va retourner au Polysécur. Donc, le volet humain, c'est un segment dans lequel où tu t'es plus ouvert personnellement. Est-ce que ça t'est difficile pour toi de faire ça?
Oui, tout ça n'est pas facile. Un peu comme ce que je fais là, je suis beaucoup plus ouvert que j'ai l'habitude de faire, ou c'est juste moi le tranquillou qui fait ses questions en arrière de son écran, tout protégé dans mon univers, en arrière de mon micro. Oui, parce que j'ai pas l'habitude de m'ouvrir publiquement. C'est pas dans mes habitudes de faire ça. Je suis très privé. Donc, oui, mais pour le bien de la conversation qu'il y avait eu là, c'est les épisodes spécifiquement, c'est ceux avec Benoît Gagnon sur la neurodivergence. Pour donner du contenu, de la puissance à ce qui était discuté, j'ai dû ouvrir. Je parle comme si c'était une souffrance ultime. Dans le moment où je l'ai fait, c'était pas une souffrance, mais c'est juste qu'après, je me suis senti comme rouge, je me suis ouvert, je me sens pas bien. Puis là, j'ai réécouté pour assurer que, tu sais, que je disais pas des conneries, puis ça s'est bien fait. L'épisode est sorti tel quel. Mais d'ouvrir comme ça, cette authenticité-là était nécessaire pour donner le poids suffisant au sujet qui était traité, parce que je peux pas traiter ça de façon froide et distante. Fallait que je sois dedans dans ce cas-ci. Et c'est une première expérience pour moi d'avoir été dedans. Le sujet, puis d'être plus que juste un participant, un intervieweur, machin, mais là, vraiment, tu sais, c'est comme un combat de lutte, puis je luttais avec l'autre. Là. J'étais zéro dans les estrades à regarder tranquillement ce qui se passait ou être l'annonceur. J'étais dedans, j'ai foncé dedans, j'ai aimé l'expérience, même si c'est pas facile. Et de ce que j'en constate, parce que ça a eu cet effet-là aussi, c'est qu'il y a eu énormément de commentaires qui ont été reçu autant par Benoît que par moi sur la valeur de ce qu'on a partagé, parce que ça, l'objectif était justement d'ouvrir ce sujet-là qui n'est pas nécessairement facile, que les gens ont de la pudeur. C'est ça aussi, parce que les gens ont de la pudeur à parler de ce genre de sujet-là. Il fallait que je m'ouvre sur ces sujets-là, que la plupart des gens ont de la pudeur, mais justement pour les aider à se sortir de cet élément-là, d'utiliser ma plateforme pour les aider à y voir quelque chose. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs, autant publics sur les commentaires sur LinkedIn, autant j'ai reçu des courriels, j'ai reçu des messages privés de gens qui étaient très heureux qu'on aborde ça, qui se sont sentis plus seuls. J'ai trouvé ça fascinant. Puis en même temps, tu sais, je me rappelle de ma jeune vie adulte, puis je me sentais seul dans comment j'étais. Fait que je comprends là ça, puis je trouve ça bien d'avoir réussi à connecter comme ça. Et que ça a eu cet effet-là, puis c'est beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu jamais imaginer comme retour par rapport à m'être ouvert et m'être mis à nu, ou vraiment ouvrir le kimono dans ce cas-ci, si on prend l'expression.
Eh oui, clairement, ça a résonné beaucoup avec les gens parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires puis de comebacks positifs. Moi, je pense que ça prend beaucoup de courage de se montrer un peu plus vulnérable ou de s'ouvrir dans des situations comme ça. Félicitations, c'est pas facile.
Merci
de l'avoir fait.
Puis j'ai une anecdote, il faut que je raconte mon anecdote parce qu'on en a parlé après chaud, puis je vais absolument le faire parce que le premier épisode que j'ai diffusé sur la neurodivergence avec Benoît Gagnon, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur LinkedIn fin de l'avant-midi, fait, je le vois passer, je vais lire le commentaire, tu sais. Puis il m'a laissé le commentaire, mais c'est un peu perplexe. Puis je dis, oh, ça demande un peu de réflexion. Tu sais, je vais dîner là-dessus, puis je vais revenir pour y répondre après, parce qu'il soulevait un point intéressant, puis justement de entamer la conversation. Puis c'est un peu l'objectif de ces segments-là, c'est d'entamer la conversation, de pas juste je professe une vérité, je professe une façon que je vois les choses et venez contribuer, puis c'est important. Et quand je suis revenu, ben, le commentaire avait disparu. Fait que j'étais un peu déçu, j'ai pas le closure de au moins tout le plaisir d'avoir eu à échanger avec la personne, de pouvoir justement peut-être pas débattre, là, mais tu sais, au moins de comprendre son point de vue, de voir où elle se situe par rapport à ces éléments-là et d'amener la conversation à un endroit qui nous aura enrichi mutuellement, mais finalement plus ça a disparu. Fait que je suis resté sur mon appétit, même si j'avais bien mangé sur l'heure du dîner.
Et non, n'hésitez pas à commenter, puis c'est le fun d'avoir des discussions. Là. C'est comme ça que ça permet d'avancer, de grandir, puis d'approfondir les sujets. Mais clairement, ça a été un sujet qui était grandement apprécié de l'audience. Ça fait la fin de mes petites questions personnelles, donc je retournerai au Polysécure. Il reste 4-5 questions. Là. Je sais qu'on est rendu un peu loin dans le temps, mais c'est le fun, guys, c'est le fun. Donc, ton plus grand défi dans les 3 dernières années de podcast?
C'est de m'organiser, d'avoir eu à pivoter régulièrement, de changer mes formules, de jamais être satisfait de ma formule. Fait que c'est pour le point de vue personnel, même si c'est le podcast, ça a été toujours ça, parce que si je regarde la façon que j'ai commencé, C'est très, très loin au sens où, au début, c'était des sorties aléatoires, de temps en temps, au hasard des choses, à laquelle maintenant c'est rendu à une cédule de diffusion stable, prévisible, peut-être un peu surabondante. Là, c'est un autre défi que je vais devoir régler ou réduire, en tout cas, pour que ça soit en quantité, pour que les gens puissent absorber la quantité de choses que je produis.
Justement, parce que là, c'est ça, ton beau problème, c'est que là, tu as beaucoup de sujets enregistrés. Là.
Ouais, je suis un peu boulimique. C'est un peu ce qui est arrivé en 2023, de cette transformation-là en 2021, 2022 et 2023. Autant j'ai organisé, autant là, les éléments, j'ai essayé beaucoup de choses. Certains ont été visibles, certains ont été moins visibles en termes de tests que j'ai faits, puis je me suis beaucoup amusé. Ces défis-là, c'est de réussir à réduire. C'est drôle de le dire, mais il faut que je réduise le volume pour être capable, parce que je sais que les gens ne sont pas capables d'absorber la quantité. Puis tu sais, je les comprends, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts. Et si j'avais quelqu'un comme moi qui sortait ça comme un fou comme ça, j'aurais peut-être un peu de misère à ingérer la quantité de contenu. Peut-être que même je décrocherais. Fait que j'essaie de trouver une façon de maintenir ça, transformer le site en un site de référence. C'est un peu un objectif parce que le contenu que j'ai n'est pas un contenu qui s'ingère comme un podcast donc classique, c'est-à-dire de façon linéaire, mais vraiment comme une base de référence. Fait que aussi, il faut que je transforme mon site pour que ça devienne comme une base de référence quand les gens vont vouloir écouter sur un domaine spécifique. Ils veulent écouter, bon, les thèses d'intrusion au cloud. Ah, il y a 10 épisodes qui adressent ce sujet-là. Ils vont être capables de choisir dans les éléments pour écouter spécifiquement ce qu'ils ont besoin pour répondre à leurs questions, leurs interrogations à ce moment-là. Fait que c'est le défi qui est là, puis de pas perdre la flamme.
Donc, les changements là, en vue pour le futur dans le podcast, c'est une cadence un petit peu plus réduite de diffusion et un site web organisé.
De mieux organiser l'information pour... Dans le fond, d'un setup, d'un point de départ où je le faisais purement pour moi, pour mon plaisir, parce que j'avais beaucoup de plaisir à le faire, j'ai basculé à un mode où je continue à le faire parce que j'ai énormément de plaisir, mais de comment partager au plus grand nombre ce plaisir-là et cette information-là, donc les moyens. Les médias sociaux est une stratégie que j'ai utilisée en 2023, entre autres, pour commencer à augmenter la portée pour que le message se diffuse aux gens qui veulent apprendre des nouvelles affaires, qui veulent creuser la question. Et ça, ben, tranquillement, ce n'est un, mais le site web aussi est en un autre, de comment rendre la plateforme différente pour faciliter ce demande-là. Et l'autre, ce que j'ai réussi à faire sur YouTube, mais pas encore sur les autres plateformes, c'est-à-dire de séparer les 6 segments pour aider les gens s'ils veulent juste absorber du volet humain, mais ils vont juste avoir du main. Fait qu'ils vont, même si je conduis, disons, mettons que je ne suis pas capable d'être pas boulimique comme je suis là, donc je mets une cadence qui est encore un peu folle, mais la cadence va être atténuée parce que si les gens choisissent un domaine, par exemple, j'en connais beaucoup qui vont s'intéresser au domaine technique, par exemple, ben ils vont juste s'abonner à cette chaîne-là, à ce segment-là, et ils ne recevront pas le restant du contenu. Fait que ça va être un peu plus facile pour les gens, mais c'est des défis. Certains défis techniques pour moi. Là, je dois réapprendre certaines choses de programmation, puis je dois réapprendre des affaires qui me sont loin un peu. Fait que c'est un peu rouillé. On ne pense jamais qu'on sait toujours qu'on fait du vélo, mais quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, on tombe quand même 2-3 fois avant de reprendre son élan. Là.
Oh, c'est un beau problème là, de devoir organiser tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à l'écoute là, pour le podcast. C'est intéressant. Puis au niveau des sujets du Polysécur en 2024, en quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
Oh, hey, question piège. Je vais maintenir, en tout cas pour la première moitié, c'est ce qui est prévisible, c'est qu'on va maintenir relativement les mêmes éléments qu'en 2023. J'ai des nouveaux collaborateurs qui commencent déjà à apparaître. On va commencer à en voir apparaître dès janvier, d'ailleurs. Et d'ailleurs, comme je suis boulimique, on enregistre le 28 décembre. L'épisode sort le 1er janvier. Et tous les épisodes jusqu'à la fin janvier sont déjà enregistrés et, dans certains cas, déjà produits. Donc, ça donne une idée un peu de comment mon univers un peu fou s'articule. Donc, j'ai des nouveaux collaborateurs qui vont être en janvier, d'autres que je fais les premières initiations d'enregistrement en janvier. On va aborder en janvier notamment l'informatique opérationnelle, technologie opérationnelle, c'est-à-dire tout le volet industriel de la cyber qui est très méconnu. Ça en est des gens qui sont de façon spontanée m'ont contacté pour pouvoir partager leur connaissance. C'est génial. Le premier épisode est enregistré. Il va être diffusé en janvier. J'ai très, très hâte. Ça va être très sharp. C'est trois personnes complètement débiles. Là. C'est fou. Ça, on aborde des volets humains davantage. J'ai des nouveaux collaborateurs pour le volet humain. J'ai des volets plus de deux, trois collaborateurs techniques qui sont en train de on va probablement commencer à enregistrer. Donc, on a plein d'éléments comme ça qui sont en train d'émerger. Partir, si je réussis à séparer, bon, on va peut-être enregistrer du curieux davantage, du grand public. C'est mon vœu pieux. Je ne suis pas sûr que je vais être capable de le faire, mais c'est mon vœu pieux. PME, je suis en pleine croissance. Là. J'ai des nouveaux collaborateurs PME. Sont fantastiques. Ils viennent, en fond, porter main forte à Emeline, qui était la seule. Maintenant, je vais avoir trois, peut-être quatre collaborateurs PME de façon plus permanente. Donc, on va être capable d'augmenter la cadence pour ce volet-là spécifique. Tu sais, je parle d'augmenter la cadence, puis de l'autre côté, de descendre. Fait que, tu sais, ça ne marche pas. Là. Mon plan foire avant même de pouvoir y arriver jusqu'au bout. Fait que, bref, j'ai des défis, il faut que je me gère. Je pense que gérer va être le plus gros défi de 2024.
On va te laisser dans tes contradictions gérer ça pendant le mois de janvier. Le désir de croissance et d'organisation, c'est très drôle. Puis justement, si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez entendre, des choses que vous voulez en savoir plus, qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous écrire, mais dépêchez-vous parce que tous les sujets du mois de janvier sont déjà prévus.
Oui, ben les choses sont déjà là, mais si vous avez des sujets, puisque moi je me base beaucoup sur ce que j'entends autour de moi, je parlais des âneries, fait, j'entends des choses que les gens ne maîtrisent pas bien, puis malheureusement, on parle comme si on connaissait, là, ça c'est un peu, je trouve ça un peu dommage. Mais cela étant dit, c'est sur ce quoi je me base, ou ce qui se passe dans l'actualité, ou ce que les collaborateurs comme le OT par exemple, ou dans certains autres domaines, vont venir me partager de façon spontanée puis ils viennent me voir avec ça. Vous pouvez le faire. J'en ai eu Emeline, en est une. J'ai ceux qui s'en viennent sont d'autres personnes qui spontanément sont venues me voir pour partager leur contenu. Puis on est capable, en général, d'arriver à quelque chose. D'ailleurs, j'en ai un nouveau collaborateur pour les sécurités des médias sociaux début décembre. Il revient aussi. Fait, ça en a un autre de cette panoplie-là. Vous pouvez faire ça. Proposer le sujet aussi, puis je vais être capable d'aller chercher. Je connais plein de gens qui veulent collaborer, mais qui n'ont pas d'idée de sujet. Fait que ces sujets-là que vous me partagez peuvent servir à ces choses-là. Même si c'est déjà plein janvier, il y a de la place encore. Puis de toute façon, les cycles de production sont longs. En temps normal, de réussir à booker un collaborateur, ça prend au minimum un mois à deux mois là, avant de réussir à trouver une date commune et de trouver l'enregistrement. Fait que c'est pas un défi. Là. Je le vois comme ça parce que ce qui sort en janvier est enregistré en décembre. Fait que si je veux sortir des choses en février, ben, je me trouve des sujets enregistrés en janvier. Fait que de là est l'intérêt de collaborer à vos questions, de participer. C'est ouvert. J'aimerais ça peut-être faire des épisodes live en 2024 ou peu importe la formule d'explorer des nouvelles affaires. Mais, tu sais, c'est justement une contradiction de croissance et normalité, ça marche pas. Ah.
Je vais te sortir de ce bourbier avec une dernière question. En fait, c'est moi qui t'ai demandé peut-être un petit peu plus des statistiques sur qu'est-ce qui s'est passé dans la diffusion des différents segments. J'avais plusieurs questions. Là. Je vais te laisser peut-être partager les statistiques que tu as.
Oui, bon, on a regardé un peu, j'ai partagé un peu les informations, tant au niveau des épisodes enregistrés. En 2023, j'ai enregistré plus d'épisodes techniques que d'épisodes professionnels qui arrivent en deuxième. Puis ensuite, les autres descendent jusqu'à grand public, qui est probablement le moins aimé de la gang, là, dans lequel justement je vais chercher à rehausser un peu, ou de peut-être rééquilibrer les différents sujets. Fait que ça ressemble un peu comme paysage, puis c'est 41-42% des épisodes qui sont des épisodes techniques qui ont été enregistrés et diffusés. En 2023, 30% pour les professionnels, puis ça descend assez vite pour le restant. parce qu'on est déjà rendu à 70% du contenu qui est comme ça. Au niveau des écoutes, puis celle-là, on s'est amusé un peu à regarder, puis j'ai été un peu fasciné par les chiffres qui étaient là. Sans rentrer dans le nominal, les épisodes les plus écoutés sont les épisodes techniques, de façon assez substantielle d'ailleurs, suivi de juridique, puis ça m'a un peu surpris parce que de mon feeling, c'était pas ça, mais les épisodes juridiques suivent les épisodes techniques en termes de plus écoutés.
Moi, je trouve ça intéressant parce que juridique, je trouve ça un peu complémentaire dans le sens que les avocats vont être avocats et les gens cyber vont être en cyber dans le sens que c'est encore un peu assez scindé ces deux domaines-là. Fait que je trouve ça intéressant que les gens de cybersécurité s'intéressent au juridique.
Oui, absolument. Puis tu sais, ce n'est qu'une surprise de perception. Puis j'aime ça me faire surprendre par ce genre de choses-là parce que des fois, on a des perceptions, puis on regarde les chiffres, puis ça ne concorde pas. Fait que dans ce cas-ci, ma perception ne concordait pas avec le réel. Puis j'ai trouvé ça très intéressant de voir que les techniques sont vraiment les plus écoutées. Si on regarde toutes plateformes confondues. Ensuite, on tombe, c'est vraiment les juridiques qui arrivent en deuxième dans les top 10 qu'on voit apparaître. C'est des épisodes juridiques. Ensuite, arrivent les épisodes, certains épisodes humains ou certains épisodes, mais de façon un peu plus aléatoire, ce qui suit ensuite quand on descend plus bas. Puis il y a des épisodes tout à fait fascinants. Là, c'est sur YouTube, j'en ai un avec 6 likes. J'étais comme, je tombais en bas de ma chaise. Je ne savais même pas que ça pouvait arriver, ce genre de choses-là. Donc, j'étais un peu ça. Parce que en même temps, je le dis, je ne regarde pas mes stats vraiment souvent sur les épisodes de ce qui est écouté, ce qui est diffusé, oui, puis la proportion, ça, je suis. Mais pas l'autre bord, parce que je ne le fais pas pour ça. Puis là, je suis un peu comme flabbergassé par les chiffres que j'ai vus. Par le nombre de personnes qui écoutent et tout ça, c'est quand même... C'est étonnant. Là. Puis là, je suis tout gêné, tout ça. Là. Je vois tout rouge dans mon salon.
Ça, c'est drôle. On s'en parle souvent. Que tu sais, mettons, telle personne me parlait du podcast. Ah, zut, il m'a écouté. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui t'écoutent et qui apprécient et qui nous écoutent en ce moment. Ah!
Ouais, c'est pas une idée que je trouve très agréable de savoir qu'il y a des gens qui écoutent pendant que je parle. Fait que je fais un peu abstraction de ça pendant que j'enregistre. Fait que moi, j'enregistre tout seul avec l'autre personne. Puis il n'y a plus rien dans l'univers qui existe pendant ce temps-là.
Donc, ça clôt pas mal les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose?
Non, ben ça fait le tour. J'ai aimé l'expérience. Je pense que tu t'apparaisses toi aussi. Fait que je pense qu'on va en refaire d'autres. Peut-être pas en parlant de moi, là, mais peut-être en parlant de d'autres sujets aussi. Là, on va aborder d'autres choses. Parce que parler de moi pendant 1h15, c'est pas mal long. Là. Je pense que les gens vont être tannés d'écouter parler. Fait qu'on va laisser la place un peu plus aux autres aussi. Là, puis j'enregistre pas trop souvent, mais
on verra les stats.
C'est ça, on va regarder, ça va être désastreux. Là. Je vais juste avoir comme être débiné puis regretter ma vie. Non, inquiétez-vous pas, je m'en fous un peu de ce genre de statistiques-là. Mais bref, on revient, ça veut des questions, des choses osées, parce que c'est ça qui vient modeler le podcast aussi là, dans l'absolu, là, parce que je me base aussi sur ce que j'écoute dans mon entourage, tout ça. Oui, ça fait bizarre de se faire dire quand quelqu'un dit « Ah oui, je t'ai écouté. » Ah oui? Ah bon? C'était bien?
J'ai-tu bien fait ça?
Je suis gêné, là.
Un gros merci à tout le monde qui nous écoute encore. Merci à tout le monde qui est là, qui écoute les épisodes du Polysecure, qui s'intéresse à la cybersécurité. C'est un domaine tellement intéressant. Puis bonne année tout le monde. Prenez soin de vous.
Bonne année et souhaitant que 2024 soit... paisible.